Bienvenue dans The Debate. Quand on étudie l'histoire d'un patient qui arrive aux urgences, on s'attend généralement à un diagnostic assez clair. Une forte fièvre, on identifie le symptôme et on donne le remède.
C'est vrai, oui, dans un monde idéal.
Mais quand on observe le Royaume-Uni des années 70, le thermomètre semble complètement cassé. Donc aujourd'hui, nous croisons nos perspectives sur le tout premier référendum national britannique, celui du 5 juin 1975, où les citoyens ont voté à 67% 23% pour rester dans la communauté économique européenne.
Avec une participation de 64%, il faut quand même le souligner, ce qui soulève une question que je trouve fascinante, ou du moins dont je suis la première à débattre. Ce vote écrasant, est-ce que c'était vraiment l'élan rationnel d'une nation qui cherchait à sauver son économie, ou une simple manœuvre politicienne pour étouffer les divisions de l'establishment?
Alors, je suis convaincu que l'économie a dicté ce choix. Je veux dire, n'oublions pas d'où venait le pays à l'époque. Le choc pétrolier, une inflation galopante à deux chiffres, et surtout, cette humiliante semaine de 3 jours.
Ah oui, celle imposée par les grèves des mineurs.
Exactement. Les coupures de courant forçaient littéralement le pays et les usines à s'arrêter de tourner une grande partie de la semaine. Donc dans ce marasme absolu, l'Europe, c'était vraiment la seule ancre de prospérité disponible.
Je suis tout à fait prête à admettre l'ampleur du chaos économique, bien sûr, mais vous sous-estimez totalement la panique politique du Premier ministre, Harold Wilson.
Vous pensez que c'était juste de la panique de sa part?
Totalement. Ce grand récit d'un sauvetage national, ça masque une réalité bien moins noble. Wilson dirigeait un parti travailliste qui se déchirait de l'intérieur sur la question européenne. Au lieu de trancher, il a utilisé ce référendum pour sauver sa propre tête.
Oui, avec sa soi-disant renégociation.
Voilà. Il a fait semblant de renégocier les accords de 73 avec Bruxelles et il est même allé jusqu'à suspendre la fameuse solidarité gouvernementale.
Ce qui, rappelons-le, pour le contexte, était du jamais vu pour les institutions britanniques de l'époque.
Absolument. Imaginez un peu la scène. On a vu des ministres du même gouvernement aller sur les plateaux de télévision pour faire campagne les uns contre les autres et ensuite, ils retournaient siéger ensemble pour diriger le pays. C'est de la pure gestion de crise partisane, pas une véritable vision européenne.
Je vous l'accorde, la manœuvre de Wilson est indéniable, mais on ne gagne pas un référendum à plus de 67% avec de simples astuces politiciennes.
Vous en êtes sûr?
Oui, parce que presque toutes les nations et régions du royaume ont voté oui. Ce vote, c'était pas une déclaration d'amour idéologique à l'Europe, c'était un acte de triage médical d'urgence. L'électeur britannique a regardé son pouvoir d'achat s'effondrer et a choisi la seule option qui promettait un peu de stabilité.
Sauf que cet électeur, il a été bombardé par une campagne d'une asymétrie écrasante. Ce fameux consensus national que vous décrivez, je veux dire, c'est une illusion.
Une illusion? Comment ça, une illusion?
Le camp du oui concentrait tout l'establishment des deux grands partis, le patronat, la presse dominante, et surtout des moyens financiers colossaux. Et en face, on avait quoi?
Une coalition assez hétéroclite, c'est vrai?
C'est le moins qu'on puisse dire, une coalition absurde et inaudible. D'un côté, la gauche radicale de Tony Benn, qui voyait la CE comme un cartel capitaliste conçu pour bloquer le socialisme, et de l'autre, des conservateurs nationalistes uniquement obsédés par la souveraineté.
Le camp du non était indéniablement un attelage contre nature. Mais ça prouve justement que l'alternative à l'Europe n'était absolument pas crédible pour la majorité des Britanniques. Par contre, votre point sur les tactiques de Wilson soumève une mécanique troublante qui résonne beaucoup avec 2016.
Ah, vous pensez à David Cameron ?
Oui, des décennies plus tard, il a joué exactement au même jeu, on prétend renégocier avec Bruxelles, on lance un référendum pour calmer les frondeurs de son propre parti, et on prie pour survivre politiquement. Sauf que Wilson a réussi son pari, alors que Cameron a dû démissionner le lendemain du vote.
C'est le parallèle inévitable, ouais. Mais ce qui me fascine le plus aujourd'hui, c'est le silence absolu qui entoure cet événement. Le 50e anniversaire en juin 2025 est passé quasiment inaperçu.
C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé.
À part quelques chercheurs qui exhument des tracts d'époque à Cambridge, l'oubli est total. Et ce silence est très politique. Il valide indirectement l'argument des pro-Brexit d'aujourd'hui, qui affirment que le vote de 1975 portait uniquement sur un simple marché commun, et pas sur une union politique contraignante.
Donc selon cette lecture, il était tout à fait légitime qu'un peuple puisse voter son exact contraire 41 ans plus tard.
Exactement, puisque la nature même de l'euro t'avait muté, ce qui démontre que cette victoire massive de 75, construite sur une campagne déséquilibrée, portait déjà en elle les germes de son futur rejet.
C'est une perspective intéressante, mais je maintiens que face au gouffre économique des années 70, les Britanniques ont d'abord fait un choix rationnel de survie. Cela dit, nous touchons bien là à la complexité vertigineuse d'une démocratie capable de plébisciter une union de façon écrasante pour la rejeter d'un cheveu une génération plus tard.
Tout à fait. L'histoire est rarement linéaire.
Nous ne trancherons pas ce débat historique aujourd'hui. C'est à vous de tirer vos propres conclusions sur ce pan oublié de l'histoire politique. Finalement, pour reprendre notre image médicale du début, si l'Europe a été administrée au Royaume-Uni en 1975, la question reste de savoir si c'était un véritable remède ou simplement un puissant antidouleur dont les effets ont fini par s'estomper.